Dans l'imagerie collective, bien influencée par Rocky, le boxeur passe son temps à courir et faire de la corde à sauter. Mais est-ce bien le cas? Eh bien, j'ai posé la question à Jordi Weiss, boxeur professionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jordi Weiss, boxeur professionnel, l'un des tout meilleurs en France, en Europe, et qui va combattre dans quelques jours pour être dans le top 10 mondial. De l'extérieur, vous pouvez penser qu'un boxeur, c'est avant tout quelqu'un qui donne des coups. Mais la boxe, c'est aussi et surtout l'art de les éviter. Pour être boxeur, il faut de la technique, un bon coup d'œil, de la vitesse de bras, de la puissance, du mental, être capable de rester lucide tout le combat, du cardio, de l'endurance. Jordi est un athlète qui s'entraîne 2 à 3 fois par jour et qui serait capable de courir le 10 km en 35 minutes d'après son préparateur physique. Jordi nous plonge dans le quotidien d'un boxeur professionnel qui doit travailler la puissance, l'énergie, l'explosivité, tout en surveillant son poids. Car la catégorie de poids se joue au gramme près, le jour de la pesée. Musculation, course, technique, discipline, alimentation, Jordi connaît parfaitement son corps et tout ce qu'il faut faire pour le préparer au combat et être prêt le jour J. Et si je pense que le mot asperge a été le plus prononcé dans cet épisode, Jordi nous livre aussi des anecdotes amusantes sur sa famille. Car Jordi est issu de la communauté du voyage, d'où son surnom El Ritano. Et parfois, les habitudes alimentaires de la famille ne sont pas vraiment compatibles avec celles d'un boxeur professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour Jordi.
Bonjour à vous.
Comment vas-tu?
Ça va super, impeccable.
La grande forme?
Oui, la très grande forme en ce moment. En plus, je suis en pleine grosse préparation pour mon combat qui va arriver très prochainement. Donc, on met vraiment les bouchées doubles dans la salle.
C'est ce que j'ai demandé en fait. C'est quand ton prochain combat?
C'est le 27 novembre à l'Espace Mayenne à Laval.
Et tu combats pour quoi?
Je combattrai pour 2 titres internationaux. C'est des titres qui me classeraient parmi les top 10 mondiales.
Waouh! Alors, ceux qui connaissent rien à la boxe, comme moi, en fait, je ne sais pas si on arrive à comprendre un petit peu toutes les catégories, bon, ça va à peu près, mais alors les fédérations, les classements, qui combat quoi, etc., je trouve que c'est un peu compliqué.
Il y en a plusieurs.
Ouais, alors là, tu dis 2 titres?
Ouais, 2 titres, 2 ceintures.
Ouais.
2 ceintures, donc dans une IBO, donc International Boxing Organization. Et une WBA, World Boxing Association. Et les meilleurs parmi les 3 fédérations, c'est les 2 meilleurs qui puissent exister.
D'accord.
Bon, bien sûr, il y a la WBC qui est meilleure, qui est la plus ancienne des fédérations de boxe anglaise. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fédérations comme la WBF. Par exemple, vaut mieux être champion de l'Union européenne ou européen, ce qui est vraiment un niveau largement au-dessus.
D'accord. Mais c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à y comprendre parce qu'il y a entre les titres européens, etc. Puis peut-être que certains ont vu les Jeux Olympiques où la boxe olympique, c'est encore un autre rue.
Oui, la boxe olympique, c'est une compétition réservée qu'aux amateurs. Moi, je fais des 12 rounds de 3 minutes alors que les amateurs font des 3 rounds de 3 minutes. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment un autre monde, en fait.
Alors, tu dis 12 rounds de 3 minutes. En apparence, ça ne fait pas très long. Mais sauf que j'ai beaucoup du mal à m'imaginer l'effort que ça demande pour tenir le choc.
C'est vraiment des gros efforts. Le cœur monte très haut. Et c'est des efforts courts, mais vraiment intenses. Il faut vraiment, vraiment être costaud niveau cardio pour endurer. Parce que quand on prend des coups, forcément, ça fatigue. Les organes fatiguent, comme le foie, par exemple. Quand on prend des coups, faut riposter, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il ne faut jamais se laisser enfermer et prendre des coups, parce que ça fatigue, quoi. Donc, il faut toujours être au taquet. Et pendant 12 rounds, ça fait quasi plus de 40-45 minutes de combat très, très intense. C'est énorme.
On ne l'a pas dit, tu fais en quelle catégorie de poids, toi?
Moi, je suis en poids welter. Poids welter, c'est 66 kilos et 678 grammes, très précisément. Donc, si on fait 66 kilos ou 700 grammes, ça ne passe pas. Donc, il faut être en dessous les 66-678.
66 kilos. Alors là, moi, c'est un poids qui est inaccessible pour moi. je ne te demande pas ta taille.
Ma taille, je fais 1m77, 1m78, ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Alors, tu vois, c'est là où moi je trouve, c'est que je me dis que tu dois quand même que du muscle. Je pense qu'en matière grasse, tu dois pas avoir grand-chose.
Non, ça va, ouais, je suis assez bien. Niveau muscle, oui, je suis assez bien, oui.
C'est
À part en dehors les combats où je me fais plus plaisir et je relâche un peu, donc forcément, bah, quand un sportif se lâche un peu, bah, j'ai tendance à prendre vite niveau poids. Mais ça va, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il y a des boxeurs qui sont plus petits que moi dans cette catégorie. Il y en a qui sont plus petits et plus dans la catégorie du dessus, donc super welter 69 900. Donc là, moi j'ai la chance d'être assez grand et de bien faire le poids, quoi. Mais il y a quand même un petit peu de poids à perdre. Je pense qu'on va en venir sur ce sujet tout à l'heure.
Oui, on va revenir sur ce sujet-là. Mais avant, moi, tu sais, j'ai deux sujets, j'ai deux images du boxeur, mais je pense que tout le monde a l'image du boxeur. Tu sais, c'est le mec qui court, comme Rocky, tout le temps, et le gars qui fait de la corde à sauter tout le temps.
C'est
Je me
ça.
trompe?
Ben, la corde à sauter, ça c'est vraiment ce que j'adore parce que ça travaille la coordination, le jeu de jambes, le cardio, ça fait perdre du poids aussi. Et puis c'est vraiment l'objet, le matériel du boxeur, quoi. Avant, c'est vrai que les boxeurs faisaient bah, course à pied, corde à sauter, sac, quoi, et poire. Vous savez, la poire où déding, 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 où on frappe dedans, là. Et maintenant, bah, ça s'est modernisé. Il y a des nouveaux exercices, des nouveaux appareils qui sont sortis. Donc, c'est vrai que ça casse un peu la routine. Au bout d'un moment, c'est bien aussi de varier.
Moi qui suis très nul en corde à sauter, je sais que je suis pas le seul. Hein. Et tu sais qu'on est plein de coureurs et les coachs nous disent qu'il faut faire de la corde à sauter. Alors, je profite d'avoir quelqu'un qui fait des heures de corde à sauter dans l'année pour dire,
Ah
est-ce
oui.
que tu as une astuce?
Alors, une astuce pour la corde à sauter, bah déjà, faut choisir la bonne taille, c'est très important. Moi, j'aime bien les cordes assez longues parce que bah, quand elle est trop courte, bah, forcément, on la prend dans les pieds à chaque fois. Donc, et puis, bah, bien être gainé. Et puis, bah, après, c'est au feeling, hein, c'est un peu compliqué. Faut mettre les mains, par exemple, la corde, faut qu'elle arrive au niveau des hanches. Vous voyez? Et puis, bah, après, il faut sauter au bon moment. Et puis, c'est une coordination à prendre. Et puis c'est un rythme en fait qu'il faut garder et ça c'est pas facile. C'est pour ça que la corde à sauter c'est très très bon. Mais des astuces là je serai avec vous, ce serait plus facile. Mais comme ça j'ai pas
Ouais.
trop d'astuces à vous expliquer.
Non, mais il faudrait qu'on prenne un cours un jour de corde à sauter.
Ah oui.
C'est ce que je dis en fait, parce que, et pour l'anecdote, et je sais qu'il y en a certains qui écoutent et qui sont mis à la corde à sauter il n'y a pas très longtemps parce que leur coach leur dit il faut faire de la corde à sauter, etc. Et qu'au moment, ils se retrouvent avec cette corde à sauter dans les mains, ils se disent ouais, ça va être facile. Puis au bout de la première minute, on est totalement explosé. Et toi, t'en fais combien de
Ah
temps de la
oui.
corde?
Ah ben moi, de la corde, je peux en faire 1 heure sans problème. Je peux en faire 1 heure non-stop, hein, avec des accélérations, des doubles sauts, des triples sauts. Une fois, j'ai réussi à en passer quatre avec une corde plus fine, forcément, parce que là, j'ai une corde où il y a des poignées dedans, et cette corde-là, bah, elle travaille les épaules, les avant-bras, et puis bah, le cardio monte plus quand même. Mais elle est assez lourde. Mais c'est vrai que moi, la corde, j'en fais bah, tous les soirs à la salle, quoi, pour travailler bah, la coordination et puis le cardio. Donc, je peux en faire 1 heure, mais sinon, c'est quoi, une trentaine de minutes d'échauffement à la corde. Et quand j'ai du poids à perdre, bah, c'est KOé, et là, c'est 1 heure de corde sans problème.
Alors toi, c'est ton échauffement, moi je suis mort. Hein. Au bout de 10 minutes de corde, je suis mort, moi.
Ouais, bah, après, c'est comme moi, bah, c'est comme moi, par exemple, demain. Si je fais un marathon, quoi, ça va être compliqué pour moi aussi, parce que c'est pas les mêmes efforts. Là, c'est vraiment des efforts intenses. La corde, ça travaille super bien le cardio. Alors que la course, bah, c'est différent, c'est pas le même effort. Pour moi, ce serait pareil. Mais c'est vrai que c'est très très bien pour améliorer son cardio, la corde.
Bon, bah écoutez, tous les coureurs, vous avez entendu, hein, cyclistes, etc., nageurs, hein, on va se mettre à la corde. Il faudra qu'on fasse des stages de corde, parce que c'est vrai que moi, je perds beaucoup d'énergie, mais ça, je le sais. Tu dis, ton prochain combat, donc, c'est novembre.
Ouais, le 27 novembre.
À partir de quel moment tu te dis que le poids, tu dois le surveiller plus particulièrement?
Le poids, là, je me laisse encore jusqu'au 27 de 2 mois, quoi. 2 mois où là, c'est vraiment, 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 je pèse mes aliments, quoi.
D'accord, donc tu pèses tous tes aliments pendant 2 mois.
Ouais. Bon, après, c'est, il y a aussi, je vois à l'œil, hein, la quantité, mais sinon, ouais, les glucides, très importants, et la viande aussi, bien sûr, il en faut des protéines, mais les glucides, c'est très, très important à avoir un bon apport calorique.
J'ai beaucoup de mal à voir quel est le régime alimentaire d'un boxeur. Et c'est intéressant justement d'en parler parce que autant en course à pied, on a à peu près les trucs. Tu manges quoi en fait? Grosso modo, c'est quoi la base de ton alimentation pour avoir... Et puis, on l'a pas dit, mais parce que on parlait d'une demi-heure de corde à sauter, une heure de corde à sauter, tu t'entraînes combien d'heures par jour déjà?
Alors, je m'entraîne 2 heures le matin. Alors, je fais musculation, cardio, mais de la musculation vraiment adaptée à mon sport. Donc, pas de charge lourde et tout ça, quoi. C'est vraiment calé pour garder l'explosivité de mes bras. Et je fais le soir, je fais boxe parce que c'est le sport, mon sport à moi principal. Donc, il faut vraiment que je fasse de la boxe tous les jours pour répéter les automatismes et voilà quoi, et pour acquérir de l'expérience. Donc, 2 heures aussi, 1h45, 1h30, tout dépend, mais selon l'intensité, si c'est un sparring, si c'est un travail au sac plus dur que l'autre, si c'est sur du fond par exemple, tout dépend, mais en général c'est 1 heure, 1h30, 1h45 le soir.
D'accord. Donc c'est là où vraiment on dit hein, faut alimenter le corps hein, et
Ah
récupérer.
oui, c'est clair.
Alors c'est là où j'en viens à ma question. Justement, c'est au quotidien. Tu dis bon, tu surveilles pas tant que ça au quotidien, mais quand même un petit peu. Mais c'est quoi finalement la base de ton alimentation?
Alors, moi, la base de mon... Alors, le matin, je mange... Alors, vu que je m'entraîne assez tôt, je ne mange pas beaucoup parce que il y a du cardio, donc on va pas vomir après la séance. Donc, je mange pas beaucoup. Alors, je prends soit du lait avec du miel dedans, du lait chaud avec du miel et un fruit en général. Et puis, je m'entraîne et là, je mange mieux après l'entraînement. Vers midi, je mange mieux. Je mange de la viande blanche, beaucoup d'asperges, des légumes. Donc ça, les légumes, les concombres, la base, légumes verts et puis du poisson. Mais une fois dans la semaine, je me fais plaisir avec une bonne viande rouge. Mais c'est pas, il n'y a pas de frites, quoi. C'est du riz, et des légumes. Mais j'aime ma viande rouge quand même. Mais il en faut. Mais voilà. Et puis le soir, c'est très, 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 très light. Soupe ou légumes, et puis au dodo.
Voilà.
Soupe ou asperges, du thon, vraiment des trucs sains, quoi. Vraiment des trucs sains. Donc j'essaie de me faire des petites inventions. Mais franchement, ça va, ça me dérange pas. C'est très bon parce que j'assaisonne bien, il faut, hein. Mais bon, pas bien sûr avec de la sauce, vraiment, je mets pas de sauce comme je mettrais genre 4 mois avant un combat, quoi.
Tu dis asperge, mais enfin, t'as parlé au moins 3 fois déjà le mot asperge. Est-ce que c'est une question de
Ouais.
goût ou est-ce que l'asperge a une qualité particulière?
L'asperge, c'est diurétique et puis ça nettoie vraiment tout le corps et puis même le concombre, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment une sensation d'être calé, quoi, vous voyez? D'être calé et puis voilà. Donc, tout ce qui est légumes, de toute façon, brocoli, je me fais plaisir sur ça, quoi.
Non mais c'est vrai, en plus t'as raison parce que le concombre doit être un légume qui a encore plus d'eau que les autres, j'ai l'impression, c'est à part de la flotte, je sais pas ce qu'il y a dedans. Non mais après c'est la même famille que les courgettes, même si on prend sur
Oui, c'est
certaines
ça.
courges et les pastèques, hein, si on va jusqu'au bout du
Ouais,
truc.
bien sûr.
Donc c'est vrai que ça fait partie des... Donc je comprends cette sensation de satiété à la fois, ça prend de la place, mais finalement... Caloriquement, bon, ça pèse pas super lourd.
Non.
Pourtant, je me dis, il en faut quand même de la calorie pour alimenter le corps, enfin pour être en fait pleine forme.
Bien sûr, bien sûr. Bon, avant l'entraînement, j'ai des barres protéinées, j'ai des barres énergie. Je prends aussi des protéines, des shakers de protéines après l'entraînement. Donc, voilà, j'ai du bon sucre comme le miel par exemple de chez Apiron. C'est ça juste avant un entraînement, c'est top quoi. Il y a vraiment ce qu'il faut pour tenir le temps qu'il faut à la salle.
Donc ça, c'est, on dit donc 2 mois avant, tu commences, tu rentres dans ta préparation, etc. Bien entendu, le but du jeu, c'est d'arriver en pleine forme. Le pic de forme, bien entendu, ça, c'est un truc que tu dois gérer. On l'a pas dit, mais t'as fait combien? 27 combats ou quelque chose?
Je suis à 27 combats, ouais. 27 combats, ouais. En professionnel.
Et tout, que des victoires.
Ouais, que des victoires, ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, il y a le travail, il y a le sérieux qui fait aussi la différence, bien entendu.
Et donc, bien sûr, cette histoire de pic de forme, hein, d'être vraiment en forme le soir où il faut monter sur le ring, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour toi, cet état de forme, ou maintenant tu as tellement l'habitude?
J'ai l'habitude, hein, je sais me gérer, je sais ce qu'il faut manger, je sais que j'ai un sommeil très réparateur. Donc c'est sûr que la veille du combat, on dort mieux quand même. Enfin, une journée, par exemple, la pesée, c'est demain. Bon, je vais bien dormir, mais le combat, c'est la veille, c'est plus compliqué quand même parce que t'as vu l'adversaire à la pesée, t'as le face-to-face. Donc, on s'est chambré un peu, c'est plus compliqué, bien entendu. Mais c'est aussi ce qui fait partie d'un sport de combat, voilà, faire le show un peu pour inciter aussi les personnes à venir. Mais il y a beaucoup de respect, et puis c'est ça aussi qui empêche un peu, qui énerve le système nerveux et qui empêche à dormir forcément. Mais ça va, je sais me gérer, et le jour du combat, en général, je suis très très bien dans mes baskets et je sais faire le travail sur le ring. Mais il y a quand même du stress. Un boxeur qui dit qu'il n'y a pas de stress, c'est un menteur.
On a d'autres sports hein, qui sont dans cette gestion du poids. Il y a plein de sports dans la gestion du poids. Hein. C'est impressionnant. On a fait un épisode sur le sujet avec un homme qui, y compris d'ailleurs dans la course à pied, on en parlait beaucoup. On a l'image, tu sais, par exemple, les lutteurs. On a cette image des lutteurs qui perdent beaucoup de poids, mais qui le reprennent tout de suite après en boxe. Vous avez ce système-là ou
Oui,
finalement
c'est le même
vous
système, je
reprenez
pense.
pas?
Hein. Je pense que c'est le même système parce que nous, on fait du cutting. Vous voyez ce que c'est? Du cutting, c'est perdre beaucoup d'eau, déshydrater le corps et pour être au poids sur la balance. Donc voilà. Et après, forcément, quand on boit un litre, 1 kilo, c'est pour ça qu'on perd vite, mais qu'on reprend très vite. Moi, j'ai boxé avec un adversaire il y a 2 ans à Laval. Il faisait 66 kilos à la pesée. Le lendemain, il était à 74, 75 pratiquement. Ah oui. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Après, c'est pas très bon non plus pour le corps, pour les reins et tout, pour de se déshydrater comme ça. L'organisme s'en souvient quand même. Donc voilà. Donc, mais il a été au poids et il a pu faire le combat sans problème.
Ça t'est arrivé d'avoir un doute un jour sur le fait que tu arriverais au poids?
Ah bah ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que les balances, certes, quand je me pèse chez moi, je suis au poids, mais je me dis, imagine, parce que c'est vraiment la limite, quoi. C'est vraiment la limite. Et imagine, la balance, elle est à 300 grammes au-dessus, ça passe pas. Donc il y en a même qui sont obligés des fois d'enlever leur caleçon pour être au poids. Donc il y a une serviette devant et puis il se pèse comme ça, quoi, à poil. Et donc ça fait la différence. Pourtant, un caleçon, ça joue pas grand-chose, hein. Et avec le caleçon levé, ils arrivent à faire le poids.
Ouais, tu vois, bah écoute, moi j'ai la même stratégie, hein. Moi j'enlève ma montre, j'enlève mon bracelet avant de monter sur ma balance, en
C'est
disant oh
ça.
bah tiens, j'ai perdu 10 grammes aujourd'hui. Et tu vois, pourtant j'en ai perdu 27 dans ma vie, donc je me dis bon,
Oui,
c'est pas
c'est
10
dommage.
grammes près, mais tu sais, des fois c'est pour dire, bon allez, quand même, on sait jamais hein, si c'était les 10 grammes qui me restaient à
C'est
perdre.
ça.
Sauf que pour toi, c'est ce
C'est
qui est la
ça.
condition pour monter sur le ring.
C'est super important. Alors après, tu as des boxeurs qui viennent avec genre une bouteille d'eau, genre ils font style de boire, mais ils boivent pas. Ça, c'est vraiment le truc. Il y en a qui viennent avec des glaces, en mangeant de glace, pour dire je fais le poids facile, j'ai pas laissé de force, donc je suis vraiment bien, quoi. Et ça, c'est faux, en fait.
En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais la boxe, c'est un jeu d'échecs.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est un jeu d'échecs et il faut vraiment être intelligent sur le ring. Le but, c'est de donner des coups sans prendre parce que forcément, c'est pas de la nourriture. Et ça, bah, ça laisse des traces. Et si on veut faire carrière dans la boxe, faut en prendre le moins possible.
On n'en a pas trop parlé, mais toi, la boxe, enfin, j'ai regardé un petit peu ton site, etc. C'est un truc que tu as commencé, mais vraiment petit, quoi. Hein, c'est familial.
Ouais, mon père était boxeur. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et puis depuis, bah, j'ai toujours continué. Ça me plaisait de plus en plus. Et puis jusqu'au jour où je suis passé professionnel, je me suis dit, oula, là, ça y est, c'est la vraie boxe. Donc là, il va falloir vraiment se mettre à fond dedans et choisir. Et j'ai choisi. Donc pour l'instant, ça marche bien. Et c'est un sans faute. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible comme ça et de gravir les échelons et de remporter les titres après les titres.
J'ai quand même une question sur la partie Jeux Olympiques. T'as pas fait les Jeux, toi?
Non, les JO. Alors, les JO, ce qu'il faut savoir, c'est une compétition qui est réservée aux amateurs. Moi, je suis professionnel, mais il y a une loi qui était sortie des avant-derniers Jeux que les professionnels de moins de 15 combats pouvaient faire les JO. Mais moi, je suis à 27.
Ouais.
Donc, je suis passé pro très jeune. Je pense que si je serais resté en amateur, j'aurais pu les faire sans problème. Bon, bien sûr, il aurait fallu se qualifier, faire des tournois et tout. Mais je suis passé très tôt jeune parce que je me disais que la vraie boxe, c'est la boxe pro. Il n'y a pas de protection au niveau de la tête. Les gants sont plus fins, donc il y a moins de mousse que la boxe amateur. Le bondage, on appelle ça un bondage dur où c'est beaucoup plus. Les coups, tu les prends vraiment pour de vrai. Et puis, tu n'as pas de t-shirt. Donc, tu peux faire ton ensemble personnalisé, le short. Ton entrée avec la musique, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment la vraie boxe.
Ouais, c'est vraiment le côté spectacle hein, qu'on voit vraiment et tout. C'est vrai
C'est
que
ça?
moi j'ai regardé un peu aux Jeux
C'est ça?
Olympiques. En plus, aux Jeux Olympiques, enfin, ils sont tous partis pleurant de se faire arnaquer par les arbitres. Et c'est un truc, c'est récurrent quand même hein, cette histoire-là de d'arbitrage aux Jeux Olympiques. A vraiment l'air vraiment très spécial. Je me dis, je sais pas si t'as connu des boxeurs qui ont fait les Jeux, qui comment ils l'ont vécu eux.
Bah, il y a Alexis Vastine, hein. Le pauvre Alexis Vastine qui est décédé et puis qui a été volé deux ou trois fois, je crois, deux fois au JO, qui méritait de gagner. Là, cette année, ça a été pareil. Il y a eu des gars qui méritaient la victoire et qui sont passés à côté parce que bah, c'est le boxing business qui prend le dessus, quoi.
Donc tu as parlé de la différence quand même sur les gants, sur le show, sur la dureté, etc. On a quand même des boxeurs, on a l'impression que le fait d'être passé par les JO, ça leur a propulsé quand même leur carrière. Et bien sûr, on pense à un mec
Oh
comme
oui.
Yoka qui mais
Ah
qui est
oui.
pas le seul en plus, hein.
Ah bah si, Tony Yoka aurait pas fait les JO, il serait pas là où il en suit maintenant, il aurait pas le même promoteur et puis Canal Plus et tout. Mais c'est vrai que ça aide vraiment, vraiment à propulser ta carrière de faire les JO. C'est vraiment
Alors,
important.
on va revenir sur la préparation. Donc là, on enregistre. Je suis en train de regarder la date. On est le 20 septembre. Donc, ça veut dire que octobre, novembre, 2 mois avant, un peu plus de 2 mois là avant. Donc, c'est vrai que tu rentres bientôt dans la période de préparation, enfin de préparation de mise au poids, qu'on va dire.
C'est ça.
Combien de temps est-ce que finalement tu t'entraînes toute l'année? Est-ce qu'il y a des moments où tu fais des pauses? Combien de combats tu fais dans la saison? Comment ça se passe?
Alors, ça se passe qu'au début, j'en faisais 4-5 dans l'année. Alors, au début, on commence par 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds et 12 rounds. Et il y a les groupes D, C, B et A. Et quand on est en groupe A, c'est là où on peut faire les 10-12 rounds. Donc c'est tous les ans en fait qu'on peut monter d'un groupe. Donc il faut au minimum 4 ans, voire 5 ans pour faire un 12 round. Donc voilà. Donc je peux faire maintenant dans l'année, je peux faire deux gros combats et puis bah, je me prépare toute l'année. Oui, toute l'année, je lâche pas. Je m'entraîne tous les jours et je récupère après un combat. Donc, si genre là le 27 novembre, je fais mon combat, si ça va jusqu'au bout, Bah, je récupérerai parce que bah, y a quand même des séquelles après le combat, le corps est fatigué. Mais sinon, si ça va pas jusqu'au bout, genre en 3-4 rounds, bah là je prends aller une petite semaine de récup et je me fais plaisir, je réalimente bien le corps en bonne nourriture. Et puis voilà, après je repars à la salle. Mais sinon, en général, c'est bien 2 3 semaines de récup après un gros combat.
C'est
Mais ouais.
donc on pense tout de suite au coup, mais tu disais hein, c'est sur le cardio, c'est extrêmement exigeant hein, comme sport.
Ouais, c'est clair. Bah, tous les jours, moi, j'ai une grosse partie cardio, que ce soit course à pied avec mon préparateur de course à pied, que ce soit niveau à la salle pour faire des exercices. Bah, qui te brûle les épaules, qui te met dans le dur, quoi. Et ça, faut vraiment bosser toujours le cardio différemment pour continuer de progresser tous les jours.
C'est comment dire je me rends pas compte par exemple tu cours quoi en distance enfin tu vois on dit parce qu'en plus le jogging c'était le truc des boxeurs avant j'ai fait des recherches
Ouais,
ce matin sur
ouais.
le jogging c'était vraiment le truc des boxeurs
Ouais.
et c'est vrai l'image de Rocky qui a envoyé courir là, comme ça bon même si c'est truqué dans le film parce qu'il n'en fait pas autant de chemin ou c'est pas pareil mais ça représente quoi en fait tu disais je fais 1 heure de corde à sauter mais tu peux courir combien de temps?
Ben moi, je peux courir 20-30 km sans problème. Mais le truc, c'est que c'est pas trop. Ça me correspond pas à mon sport. Donc, c'est abîmer aussi le sportif au fil du temps en faisant de longues distances. Nous, c'est vraiment des efforts sur la course, sur 3 minutes, où les efforts durent 5, 6, 7 secondes. Et on arrête, et on reprend, et on arrête. Et il va se passer un coup, deux coups. Bon, il y a le fameux round d'observation, au premier round, qui est là. C'est plus un travail de jab, un travail de distance. Mais après, quand on rentre dedans, c'est des efforts très courts, mais très intenses. Et ouais, donc je peux courir sans problème. Je faisais beaucoup de course à pied. Là, en ce moment, je fais beaucoup de vélo. Ça traumatise moins aussi le kiné, a moins de travail à faire. Et puis ouais, je fais beaucoup de vélo là, beaucoup de vélo, beaucoup de montées pour travailler la puissance des cuisses. Et ça travaille tout aussi bien le cardio que la course à pied. C'est différent, bien sûr. Mais du cardio, je peux faire une longue sortie. Genre pour moi, c'est une longue sortie. Faire 1 heure. Sur un rythme assez soutenu et je fais genre des marches, des côtes et sinon bah le fameux 30-30, 15-15, 45-15. Donc là aussi c'est assez dur.
Ouais, bah en fait tu fais comme moi, sauf que moi d'ailleurs je fais pas faire de salle, de à frapper, etc. Mais on a le même, je fais les mêmes exercices
Ouais.
hein, tous les jours. Je me dis aussi, d'ailleurs un truc quand même, c'est le truc, c'est que tu dois travailler la puissance des muscles. Et souvent on dit que la course à pied, la muscu prise de muscle, de masse, des choses comme ça. Comment tu gères cet aspect-là? Parce que finalement, il y a tout un tas de contraintes. Tu dois avoir de la puissance, tu dois avoir être au poids, tu dois avoir le cardio.
C'est
Je me
ça.
dis, c'est une drôle d'équation, cette histoire-là.
C'est là où le bon préparateur physique doit être présent et doit faire son taf. Parce que c'est sûr que si je soulève de la fente, pardon, bah de la fente et que je casse les fibres rapides blanches, on appelle ça. Bah, c'est là où je vais prendre en masse et j'arriverai plus à être sur le ring au poids. Donc tout ça, ça se gère. J'ai tous mes entraîneurs qui sont coordonnés ensemble. Jordi a fait ça aujourd'hui, demain il va faire ça. Donc ils interfèrent vraiment ensemble. Mais je fais beaucoup de séances de côte, des accélérations en côte pour travailler la puissance. Et puis à la salle aussi, je fais vraiment de la musculation, mais avec des poids vraiment adaptés à mon sport. Donc, tout se gère comme ça. C'est sûr que je vais pas à la salle demain. Tiens, aujourd'hui, je me fais ça. Demain, bah, j'arrive à la salle, je suis claqué et j'arrive plus à donner un coup, quoi. C'est vraiment important d'être coordonné, ouais.
On l'a pas dit aussi parce que tu parles de séance de côte et les gens vont se dire oui mais il frappe avec ses bras hein, avec ses poings. Sauf que
C'est ça.
la puissance elle vient aussi des jambes.
Bah exactement, et c'est exactement ça. La puissance, elle part exactement du pied. Elle est transférée bah, au mollet, de la cuisse, et puis après, il y a la hanche, il y a le corps, bien sûr, avec la rotation qui donne toute cette puissance qui passe par le corps. Mais ouais, c'est important d'être solide sur les jambes et sur le ring, d'avoir de bonnes cuisses aussi pour bouger en cas où, moi, ça m'est arrivé d'être touché en combat, genre tu prends un coup au foie ou un coup au montant et tu vois des petits oiseaux partout, bah c'est là où tu te dis c'est important d'avoir les jambes et d'être solide sur les jambes pour bouger quoi derrière. Donc c'est très très important de travailler aussi bien le bas que le haut. Faut être complet à tous les niveaux.
Oui, alors surtout qu'en plus, dans ces poids, moi je vous appelle des poids encore assez légers, parce que finalement, t'es pas très lourd par rapport à
Ouais,
aux grosses catégories.
c'est vrai. Ah bah
C'est
ouais,
vrai
les
qu'il y a
poids
des
lourds,
catégories où on
ouais,
a
c'est
l'impression que certains ils bougent pas trop, pas tant que ça.
ouais, bah eux, ils travaillent pas du tout comme nous, par exemple. Les poids lourds, c'est vraiment des entraînements différents. Eux, ils peuvent courir une demi-heure, ça leur suffit. Tout se joue sur un seul coude, voire deux coups. Eux, ils peuvent faire beaucoup de musculation, même s'ils perdent la vitesse, l'explosivité de leurs bras, c'est pas grave. Parce que bah ils travaillent la puissance et c'est le plus important en boxe poids lourd. Et t'as l'autre poids lourd qui va préférer miser sur son agilité que la puissance. Donc le problème revient toujours. T'as le poids lourd qui va faire attention et t'as le poids lourd qui va bien manger, faire des prises de masse. Et voilà quoi. C'est différent.
Ouais, c'est vrai. Et mais c'est aussi des trucs qu'on voit par exemple en judo. On a l'impression qu'il y a des poids lourds qui sont, c'est les mêmes poids lourds, mais enfin, ils sont dans la même catégorie de poids, mais c'est pas les mêmes poids lourds. Il y en a certains qui bougent, d'autres qui bougent pas, etc. On a exactement la même chose. Puis moi, j'ai l'image, tu sais, quand j'étais gamin, j'ai Mike Tyson qui, t'as l'impression que lui, il avançait, il donnait un coup, puis on n'en parlait plus.
C'est ça. Mike Tyson, c'est. À lui, c'était pareil. Hier, c'était un boxeur. Il faisait 1,80 m pour 98 kilos, je crois. Et il arrivait à rencontrer des boxeurs de 2 mètres passés. Et bah, c'était une puissance énorme, quoi. Donc, d'où là aussi, Mike Tyson travaillait beaucoup la force. Et tu as les autres qui travaillaient plus la distance, qui faisaient plus de cardio. Alors que Mike Tyson, au bout de 6 rounds, ça y est, c'était fini quoi. Il était plus là. C'était plus sur les deux trois premiers rounds que Mike Tyson était dangereux.
Oui, tu
On
m'as
l'a
même des
vu
souvenirs
avec
de.
Holyfield. Ah ben oui.
Ouais.
On l'a vu avec Holyfield, avec Lennox Lewis. Donc voilà quoi. C'est bon. Il y en aura pour moi. Là, Mike Tyson actuellement, il y en aura pas d'autres maintenant. Hein, mais ça reste quand même un boxeur extrêmement extrêmement. Le meilleur tous les temps, mais il a été battu quand même, donc comme quoi.
Oui, c'est ça. J'allais dire, en fait, j'ai l'impression que tous les boxeurs ont été battus un jour.
Oui, sauf Floyd Mayweather, l'Américain, qui a géré sa carrière à la perfection. Mais voilà, c'était le boxing business, il a été malin, il a su prendre les adversaires au bon moment pour les battre. Et voilà, alors qu'à l'époque, c'était complètement différent. Moi, mon idole, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps des boxeurs des poids lourds. Mais il a été battu. Tu te dis non, c'est pas le meilleur, il a été battu. Mais à l'époque et l'époque de maintenant, c'est différent.
Et bon, après, il y a plein d'histoires autour de ça. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, on avait un
Bien sûr.
boxeur dans ma ville. Et il s'est changé son adversaire au dernier moment, tu sais. Et franchement, c'était parce que tu dois t'adapter à ton adversaire. C'est-à-dire que si t'as un mec qui
Ah
court, enfin, j'ai dit envie de qui court, mais il faut que tu t'adaptes à lui, quoi.
bien sûr. Tout ça, c'est avec l'entraîneur que le boxeur voit et c'est comme un match de foot, hein. Il y a des tactiques, techniques à mettre en place et ça, c'est vraiment important. Donc, quand on change au dernier moment, bah ça interfère dans tout ce que tu as fait auparavant et c'est pas bon.
Est-ce que tu vois, t'as des choses, par exemple, tu vas travailler plus, par exemple, de dire, par rapport à tes adversaires, j'ai plutôt travaillé les jambes, il y a celui-ci, je sais qu'il faut que ça va risque de durer plus longtemps, donc il faut que je sois cardio encore plus fort que d'habitude, ou des choses comme ça?
Bien sûr. Ah bah oui, bah quand tu as un boxeur qui est un puncher, par exemple, c'est là où tu dois travailler bien sur tes jambes et ton cardio pour pouvoir le toucher et puis bouger. Parce que bah, si tu veux te faire démonter, si tu restes devant l'adversaire, bah, c'est là où c'est pas bon, quoi. Donc il faut vraiment travailler des choses différentes sur chaque style de boxe des boxeurs. Tu as le puncher où il va falloir être sur les jambes et bouger et avoir du, pour ça, il faut du cardio. Et tu as le boxeur qui va, bah, lui, être comme ça. Et c'est là où il faut avancer et mettre des techniques en place. Faire les essuie-glaces, bouger pour esquiver les coups, le coincer dans les cordes et là, vraiment enchaîner de haut en bas. Mais chaque boxeur a son style de boxe et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport. Parce que bah, c'est là où il faut toujours progresser. C'est pas une seule qualité que le boxeur peut avoir et c'est fini, quoi.
C'est des choses qui s'affinent avec le temps. Enfin, j'imagine de toute façon, parce que tu dois progresser en permanence, tu dois apprendre des choses en permanence. Je me dis aussi que les tactiques, la technique doit évoluer dans ce sport.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la chance de pouvoir partir aux États-Unis et continuer de me perfectionner. J'ai la chance d'aller aussi en Angleterre. Nous, en France, on a de très, très bons entraîneurs. Après, là-bas, c'est vraiment leur travail. Les entraîneurs ici en France, la plupart travaillent à côté, alors qu'en Amérique, ils ne travaillent pas. Donc, j'ai la chance d'aller là-bas pour pouvoir progresser et avoir des choses, de savoir, de connaître des choses qu'en France ne connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Donc, faut mettre tout ça en place. Et après, bah, en général, quand les autres boxeurs nous voient faire, bah, fait la même chose. Mais faut la faire bien, quoi.
Tiens,
Mais
quand tu pars en
d'où
Angleterre
voyager, c'est important.
Ouais, quand tu pars en Angleterre et aux États-Unis, on va reparler de l'alimentation un peu. Tu les vois. Il y a des stratégies différentes, tu vois, il y a peut-être des produits ou des... Parce que des fois, quand je parle avec des coureurs, tu sais, ils disent « Ouais, mais tel truc, les Américains, ils arrivent avec ça sur le marathon des sables, tu sais, et tout. » Toi aussi, tu vois des choses vraiment différentes dans la préparation ?
Bah, il y a des boxeurs en Amérique, eux, là-bas, il y a des produits qui prennent que nous, on n'a pas le droit de prendre en France. Là-bas, c'est chez eux, c'est légal, mais pas chez nous. Donc, ouais, il y a des boxeurs bah, qui prennent des trucs. Des fois, j'hallucine, quoi. Je me dis, c'est quoi ça et tout. Ils prennent plein de cachets et tout. Et tu les vois, bah, tu te dis, c'est pas ma catégorie. Les mecs, ils sont chargés. Tu les vois, ils sont costauds. Ils montent sur le ring. Limite, tu dis, bah, c'est un poids lourd par rapport à moi. Donc, voilà. Donc, je me dis, des fois, on est bien mieux en France. Et je me dis, bah, leur santé... Plus tard, ça peut jouer sur leur santé de faire le yo-yo comme ça, quoi.
Oui, alors déjà qu'en plus, on dit avec les prises de. C'est vrai que ces histoires de changement de poids permanent, etc., c'est un truc qui pour le corps, garde des mémoires, des séquelles et tout, c'est énorme. Hein.
Bien sûr, c'est énorme. C'est pour ça que j'essaie de pas trop monter haut, quoi.
Bon, l'histoire du K-way quand même, c'est vrai que on voit plein de gens qui courent avec des K-way en se disant je vais perdre du poids. Pour personne ne perd du poids, sauf vous qui avez besoin de perdre de l'eau, quoi.
Bien sûr. Alors les gens ils courent avec des K-way, mais c'est vraiment pas bon pour la santé de faire ça et la plupart savent pas le faire. Donc faut vraiment mettre le K-way le jour de la pesée, tu mets ton K-way, tu cours, pour perdre de l'eau, tu vas en perdre. Mais c'est que de l'eau, c'est pas du gras. Donc je vois pas l'intérêt de mettre ça tous les jours et courir avec. C'est pas du tout du gras que tu perds. Bah, certainement ça aide à être au poids sur la balance, mais comme quand on boit un litre d'eau, bah c'est un kilo direct derrière, quoi. Donc par contre ça fatigue l'organisme, ça fatigue le corps, donc faut bien le faire. Après il y a le sauna qui suit derrière pour être au poids. Et puis, il y a les bains chauds avec des huiles essentielles qui fait perdre aussi du poids. Donc, tout ça, voilà, il y a les serviettes chaudes en sortant du poids. Mais ça, c'est vrai, faut faire ça avec un médecin, quoi. Moi, j'ai un spécialiste, un kiné qui est spécialiste dans la perte de poids. Il prend la tension régulièrement parce que bah, ça chute, la tension chute vraiment. Donc, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire ça intelligemment, quoi.
Et c'est ce que j'allais te dire parce que avec le cardio que tu as, enfin la fréquence cardiaque au repos, elle doit être quand même super basse chez toi.
Ouais, elle est. Alors je crois qu'une fois avant le test d'effort, c'était dans les 37-40.
37-40.
Ouais.
Tu perds du poids, t'as ta tension qui baisse.
Ouais.
Tu vas dans voir un médecin, il te dit mais vous allez bien ?
C'est clair que limite il est choqué, quoi. Ah non, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Mais moi, des fois, ça me fait flipper aussi, hein. Tu te dis, imagine, t'as le cœur qui bat à 40, 45. Bon, quand je vais chez le médecin, des fois, il prend mon pouls, bah, il y a des escaliers à monter. T'es un petit peu énervé. Ouais, je suis dans les 50 dans la journée. Mais ouais, c'est clair que le médecin peut faire les gros yeux, quoi.
Ouais, mais je vais raconter une anecdote. Je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps. Et tu sais, en salle de réveil, il y a les bip-bip là, les machines. Et l'infirmière, elle me regarde, elle me dit, il y a un problème. Et elle le monte parce qu'il bipait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dis, ça va pas? Elle me dit, non, mais il est réglé pour les petits vieux à côté qui ont le cœur qui bat beaucoup plus vite. Elle dit, vous, comme vous faites du sport,
D'accord.
elle me dit, vous faites quoi comme sport? Il est quand même bas le vôtre et tout. Elle a remonté deux, trois fois. Mais j'imagine pas toi, tu vois, t'arrives. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Ben c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, moi, le docteur, tous les ans, je fais des tests d'effort pour voir la capacité du cœur, comment il réagit à l'effort. Et ben, t'as le médecin qui est surpris, quoi. Qui est surpris. Alors, je lâche parce que ben, c'est sur vélo. Les cuisses, à un certain moment, ils abandonnent. Mais si c'est sur un tapis, je serai beaucoup mieux. Je serai beaucoup plus capable de faire mieux.
Tu te dis que des fois enfin, je sais pas, t'as déjà fait des courses officielles, des choses comme ça?
J'ai fait une fois un cross, je crois, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un cross. Mais on partait à un après l'autre, en fait, ils faisaient le tour. Et c'était, vous voyez, on était à quatre. Mais c'était rigolo. Et j'avais bien couru. Hein. J'avais bien couru, ouais. Mais bon, d'après mon préparateur physique, bien entraîné, je peux faire un 10 bornes. Il me disait, j'ai jamais fait, hein. Mais il me disait en 35, 36 minutes, 37 minutes, un 10 bornes. Donc pour un boxeur, c'est déjà vraiment bien, quoi. C'est
Ouais, et puis
déjà
surtout si
vraiment
t'as pas
bien.
de préparation spécifique, parce que un coureur il va faire de la préparation
Bah, c'est clair.
spécifique avec de la
C'est
VMA, des
clair.
trucs comme ça.
C'est clair.
Moi, ça, et sincèrement, ça me fait rêver, hein, passer en 35
Ouais.
le 10 km, ça me fait rêver, quoi.
Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, faudrait que j'essaie un jour. Moi, je disais, ah ouais, t'es sûr et tout, je peux faire ça en 36, 37. Ah, il me dit, ouais, en 36, 37, tu peux faire ça, je leur dis. Ben, c'est sûr que derrière, il faudrait mettre des bonnes entraînements en place. Mais je pense qu'après ce combat-là, pourquoi pas essayer? Parce que ben, j'aurai du temps pour avoir une nouvelle date et pourquoi pas essayer?
Tu
Faire
dis,
une
tu auras
belle
du
petite.
temps. Comment ça se passe? Parce que là, moi, tu vois, alors là, vraiment novice dans ce truc-là. Bon, tu gagnes dans 2 mois, là. Il se passe quoi après?
Il se passe que bah il y a je vais vraiment progresser dans les classements mondiaux et la fédération toutes les fédérations tu as 6 mois pour redéfendre ton jeu ton titre pour remettre ton titre en jeu. Donc tu as 6 mois et si tu le mets pas au bout de 6 mois bah tu gardes les ceintures mais tu n'es plus le champion actuel. Donc c'est pour ça. Donc tu as des taxes à payer eux ils vivent comme ça quoi. Et du coup, c'est là où bah, faut continuer de boxer pour pouvoir monter encore dans les classements. Et voilà. Donc, plus tu gagnes, plus tu montes dans les classements.
Tu disais tu peux rentrer dans le top 10 mondial, c'est ça?
C'est ça.
Champion du monde, ça serait à quelle échéance tu peux imaginer arriver à cette
Le titre.
échéance?
Bah là, je pense que si j'arrive à c'est pas que si j'arrive, c'est que je vais y arriver parce que je pars de pour gagner. Et je me dis que je serai dans le top 10. Je pense que d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, je pense que c'est envisageable.
C'est à la fois loin et court, parce qu'en 2 ans, finalement, ça fait pas beaucoup, beaucoup de combats.
Non, c'est clair. Alors après, j'ai l'expérience parce que j'ai quand même 27 combats et à mon âge, à 28 ans, 27 combats, 27 victoires, c'est très rare. C'est très rare parce que bah, la plupart des boxeurs passent professionnel tard et ils ont moins d'expérience. Donc là, moi, je pense que d'ici 2 ans, j'aurai 30 ans, je serai vraiment à maturité idéale pour pouvoir faire un championnat du monde.
Jusqu'à quel âge on peut boxer?
avec l'hygiène de vie que j'ai, je pense que je peux aller jusqu'à 35 ans sans problème. 35, ouais, 34, 35 ans sans problème. Je prends pas beaucoup de coups. J'ai un bon coup d'œil, moi c'est mes qualités. Je suis plus un styliste, un technicien qu'un puncheur. Et bah, quand on a compris ça à la boxe, on a tout compris. Et si on veut durer dans ce sport, faut vraiment pas prendre de coups parce que ça abîme. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et forcément, bah, on dure moins longtemps dans la carrière.
Oui, parce que je me dis en plus ces histoires de perte de poids, de mise au poids, de garder son poids, etc. Avec l'âge, enfin bon là t'es jeune toi, mais avec l'âge, ça doit pas être
Et
simple
je le
à
sens
maintenir.
déjà. Je le sens déjà. Hein. J'arrivais à faire le poids beaucoup plus facilement quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans que maintenant.
Ah oui, déjà tu le sens
Maintenant,
toi.
c'est. Bah ouais, je le sens parce qu'il y a le corps qui change, il y a du muscle qui se forme, qui était là, qui n'était pas là avant, que maintenant je me dis, ah ouais, j'ai pris des épaules. Ah ouais, j'ai pris des cuisses. Donc, tout ça fait, voilà, fait que. Ça, il y a plus de contraintes à faire le poids.
Et tu peux envisager au fur et à mesure de carrière de changer de catégorie, te dire bon bah là au bout d'un an j'ai trop de poids, enfin trop de poids, c'est trop compliqué pour ma santé, faut que je monte.
Oui, il y a des boxeurs qui le font. D'ailleurs, il y a des boxeurs comme Manny Pacquiao. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Manny Pacquiao. Lui, il a boxé en poids. Il a commencé en poids. Poids léger, je crois, super léger, welter, super welter. Donc, c'est 4-5 catégories au-dessus, c'est genre 10 kilos, c'est énorme. Et déjà en boxe, 1 kilo, 2 kilos, c'est énorme. Alors 10 kilos, c'est énorme. Et ce boxeur-là a été, l'a fait sans problème, et il n'y a pas que lui, il y en a plein. Mais après, par contre, bah, moi, demain, si je change de catégorie, je serai plus classé comme je suis actuellement. Donc là, niveau européen, je suis numéro 1. Demain, si je change, je serai peut-être numéro 10. Donc tout ça, il faut boxer des mecs qui sont devant toi et ça me manque du temps. Mais bon, après, quand on est le meilleur et que forcément, bah, quand on est le meilleur et que quand on prend du poids, bah, forcément, il y a des avantages aussi. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais moi, je préfère rester dans mon poids de forme. Je me sens bien sur le ring. À ce point-là, et ça me pose pas de problème pour l'instant, mais peut-être un jour que je changerai, ouais.
Et par curiosité, je viens d'aller voir la fiche de Manu Pacquiao sur, Wikipédia. Et
Ouais.
en fait, en catégorie, mais c'est énorme parce qu'il y a mouche, super coq plume, léger, welter, super léger. Donc,
C'est
c'est
énorme.
un nombre de catégories qui est impressionnant quand même.
Ah oui, bah ça fait ouais, bah là, s'il a commencé de mouche, ça fait au moins 15. Entre 15 et 17 kilos d'écart, hein, entre ses premiers combats et les derniers. C'est énorme.
C'est vrai que je regardais un peu parce que et c'est sa fiche, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est qu'à un moment donné, il n'arrivait pas à garder le poids, donc il montait, il montait, il montait.
C'est ça. C'est ça parce que bah, le corps, les muscles changent, l'âge fait aussi prendre du poids, fait aussi que c'est plus dur à perdre du poids. Donc, tout ça rentre en compte. Mais moi, j'ai bien peur d'un jour bah, changer de catégorie.
Des fois, c'est fatigant cette période parce qu'on dit qu'il faut arriver au poids de forme, mais est-ce que c'est pas fatigant d'avoir cette 2 mois à surveiller comme ça tous les trucs?
Bah, moi, c'est sur toute l'année que je surveille ce que je mange, ce que je fais à côté. Et moi, je ne suis pas du tout un mec. Qui boit de l'alcool, qui sort. À part après mes combats, les potes veulent aller en boîte après une victoire. Bon, bah, j'y vais. C'est vraiment, je suis vraiment un mec qui est sérieux. Mais si c'est à un certain moment, c'est prise de tête parce que tu te dis, bah là, tiens, c'est l'anniversaire d'un pote. Bah, je peux manger une part de gâteau. C'est comme ça. Mais c'est aussi le haut niveau. Le sportif de haut niveau doit faire des sacrifices. Mais c'est vrai qu'en boxe, c'est aussi compliqué que d'autres sports parce que bah, tu as un poids à respecter. Alors que dans un autre sport, genre demain, je ne sais pas moi, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas en mangeant une part de gâteau une semaine avant ou 3-4 jours avant un match que ça va lui faire grand-chose. Mais nous, ça fait ça stocke et ça fait des grammes où il faut. Bah, courir genre 10-15 minutes de plus, mais c'est fatigant et ça joue sur le combat, le jour du combat, tout ça.
T'estimes à peu près, enfin, je sais pas, tu te pèses toute l'année, j'imagine, mais c'est quoi ta variation de poids sur une année à peu près? Tu perds et tu. Combien de kilos?
Là, actuellement, je suis à 74-75. Ouais, et je boxe en 66-600, donc genre 67 pour arrondir, ça fait 8 kilos. Donc, ouais. Oui. Ça commence. Alors là, je vais perdre entre 3 et 4 kilos de gras. Et après, bah, je pour être bien affûté, parce que c'est important, et après, ce sera que de l'eau, quoi. Parce que le corps, bah, peut plus descendre.
Oui, parce que moi, et j'ai ça, pas l'impression que tu aies beaucoup de gras quand même.
Bah non, pourtant non, honnêtement, il y a plus de muscles, bah, heureusement pour moi. Mais ouais, mais il est quand même là, il est stocké, il faut le perdre. Mais c'est ça aussi qui permet d'être en forme, parce que du gras, il en faut. Hein. Et puis, ce qu'il faut savoir chez un boxeur, l'indice de masse-graisse trop bas, c'est pas bon, quoi. Parce que bah, faut de l'énergie, il faut du répondant. Et il faut être bah, solide, quoi, parce que c'est des coups quand même qu'on prend. Après, chez un coureur, je pense que c'est différent. Plus il y a du muscle, plus c'est différent aussi à courir et à porter les kilos au fil du temps. Ça, bah, ça joue, quoi, sur la distance et sur le temps.
Ouais, je pense qu'après, si tu compares les pourcentages de masse grasse des cyclistes, des coureurs et tout, mais enfin, j'avais vu des images de certains coureurs qui disaient, voilà, ouais, j'ai 10% de masse grasse, faut encore que j'en perde 1% ou 2. Et je dis, bon, bah écoute, il reste plus grand-chose. Et quand on regarde les cyclistes, on en parlait il y a pas longtemps, parce qu'on a eu un invité sur la perte de poids, et justement, on disait, il y a des sports, tu sais, comme l'aviron aussi. Qui ont des ouais. contraintes qui sont énormes hein, sur la perte de poids, avec bah, des champions olympiques même, qui ont fait des livres pour expliquer qu'ils vivaient toute l'année en privation, quoi.
Ah oui, non, mais c'est clair qu'il y en a, bah, c'est comme moi, toute l'année, ils font gaffe. Et quand ils peuvent se lâcher, bah, c'est là que le corps, bah, il, bah, directement, ça, là, sur la balance, et, c'est vrai, c'est beaucoup d'inconvénients.
Ouais, t'es peut-être un mec qui peut comprendre pourquoi quelqu'un comme Teddy Riner, à une époque, il a pris, parce qu'il a pris 40 et quelques kilos. Alors, par rapport à son poids, bien sûr, c'est une question de pourcentage, parce qu'il y a toujours un pourcentage, mais comme tu dis, c'est pendant un an ou deux ans, il est blessé, il n'y a pas de truc, et d'un coup, t'as l'impression qu'il, alors, je sais pas si on peut dire qu'il est anorexique ou quoi, mais de se remplir, d'aller chercher tout, plein de trucs, quoi.
Bah ouais, bah je pense qu'il a dû faire une grosse prise de masse, hein. Il a dû faire une très grosse prise de masse, hein. Et c'est ça aussi qui a fait que bah il a grossi, puis aussi qu'il était plus costaud que les autres. Mais oui, la prise de masse, alors, pour prendre du poids, c'est facile, mais pour le perdre, c'est plus difficile.
Donc là, tu nous disais maintenant, donc là, c'est la préparation, tous ces trucs-là, etc. T'as des jalons, tu sais, des trucs à un moment donné, tu dois faire absolument un tel truc, genre. La semaine avant, tu commences encore une alimentation encore différente, peut-être, je sais pas, comment ça se passe?
Ouais, là, bah, je réduis à chaque fois, en fait, l'apport calorique. Je réduis, genre, si je mange, je sais pas moi, 40 ou 50 grammes de riz, bah, je réduis le jour du combat, limite, à plus du tout manger de féculents, quoi. Et bah, le jour de la pesée, par exemple, je mange pas du tout de féculents. Et ça fait que, bah, qu'arriver à la balance, je suis au poids. Mais ouais, j'ai mes petites habitudes. Genre, une semaine avant le combat, c'est moi qui fais mes entraînements comme je le sens. Je fais ma corde, je fais tout ça, quoi. Alors que tu as des boxeurs, ils sont toujours là avec leur entraîneur à travailler. Mais moi, je dis que ça ne sert à rien parce que c'est pendant une semaine que tu vas créer. Genre une capacité cardio beaucoup plus importante sur le ring à tenir. Moi, je dis que le travail doit être fait avant et la semaine qui précède, c'est plus du relâchement au niveau des muscles et se faire vraiment comme le boxeur le sent, faire vraiment de la récup active, quoi.
Ouais, c'est un peu comme l'affûtage aussi en marathon, où, les deux semaines avant le marathon, on entretient, quoi.
Comment ?
Les 2 semaines avant le marathon, on entretient ou enfin, on baisse le volume pour être en forme justement le jour J, quoi.
Ouais, bah c'est ça. C'est là où ils font les réserves et tout aussi, et les gars, et que, bah, voilà, quoi, qui se mettent au mieux, quoi.
Alors, avec tout ça, quand même, tu sais, moi, on a une tradition dans le podcast, c'est que, est-ce que tu as des. Alors, je sais pas si tu fais des cheat meals, si tu manges un hamburger un jour, tu en parlais tout à l'heure, tu disais, je mange pas de frites avec ma viande rouge, enfin. Mais est-ce que tu as est-ce que tu as des plats interdits déjà?
Alors, une fois dans la semaine, quand même, le dimanche, je m'entraîne pas. Et là, je me fais plaisir quand même. Je me fais plaisir parce que bah c'est important aussi pour le mental et tout. Mais ouais, ça m'arrive une fois dans la semaine de me faire plaisir. Pas toutes les semaines, mais il y a des fois où je me fais plaisir. Le dimanche, par exemple.
Et dans ce cas, tu manges quoi?
Et bah, j'aime bien le McDo, j'aime bien pizza. Et ouais, j'aime bien aussi un bon repas que ma maman sait faire. Et là, je me fais vraiment plaisir. Ouais. Un bon petit verre de rouge avec une bonne viande, des bonnes frites. Ça, c'est pas mal. C'est la seule alcool que je bois en me faisant plaisir. C'est un bon verre de rouge qui est pas mauvais pour la santé, d'ailleurs. Le vin rouge. Mais bien sûr, un verre. Faut pas en abuser. Et voilà. Avec une bonne viande rouge, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien.
Alors, tu sais que ma curiosité est finie. Maman, elle prépare quoi comme plat?
Alors, ma mère, elle fait plein de bonnes choses. Alors, elle fait des pâtes extrêmement, rien à dire sur les pâtes, les frites, parce que moi, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Alors, chez nous, les repas, bah, forcément, tu vois, les gens de ma famille sont tous costauds, parce que c'est grillade, je te jure, grillade tous les jours. Tous les jours, c'est grillade. L'autre ramène son plat, l'autre ramène sa spécialité. Alors, tu peux avoir de tout. Tu peux avoir des recettes revisitées de tout à leur façon. Les couscous avec, bah, sur plus de beurre ou je sais pas quoi. Donc, c'est ça aussi qui fait, qui rend plus de goût. Mais, voilà. Donc, ça apporte, forcément beaucoup plus de poids.
Ouais. Bon, maintenant ils savent, ils connaissent et tout, ils ont l'habitude, mais il y a des fois ils doivent dire, mais attends, mais tu bouffes rien, toi, ou enfin,
Ah, bah oui. Bah, t'as mon père qui me dit, mais tu penses que tu vas tenir avec ça, t'auras cette force et tout. Bah, je dis, ce que tu sais pas, mon coco, c'est que dans les légumes, dans les minéraux et tout, c'est que t'as des minéraux dans les légumes, t'as des protéines, t'as plein de trucs. Bah, il me dit, avec ça et tout. Bah, j'ai oui, c'est pas en mangeant toujours de la viande que c'est forcément bon pour la santé. Et après, il me dit, bah, au final, tu vois, nous qui mangent beaucoup gras et qui mangent, au final, on pourrait pas tenir comme toi. Bah, non. Bah, oui. Donc voilà.
T'as pas essayé de les
sinon,
faire changer?
Ouais, il me le dit souvent, tu vas pas arriver à tenir 2 jours comme ça. Mon chat, c'est pas grave, tu vas courir plus longtemps. Ah oui, mais non.
Ouais, ça me rassure. Parents. On a tous les mêmes discussions en fait. tu les as jamais. Enfin, tu leur dis pas, mais essaye de manger une journée comme moi pour voir.
À eux ?
Ouais.
Ah si, ils le font, mais ils tiennent pas. Ils le font, mais ils tiennent pas, hein, parce que ça, ah oui, c'est très bon, mon fils, et tout, ah oui, c'est sain, et tout, ah oui, c'est bien, et tout. Mais tu peux pas mettre un petit peu plus de sel, tu peux pas mettre un petit peu plus de sauce, ou de... C'est comme ça, mais après, ouais, c'est... Ils arrivent à faire, allez, peut-être 2-3 jours maximum, mais après, bah, ça reprend le dessus, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de sel, mais j'imagine aussi que le sel, tu le contrôles beaucoup.
Ouais, parce que bah, ça fait forcément des rétentions d'eau. Et bah, là, bah, après, quand on l'arrête, on repère directement. Hein. Mais c'est important aussi de ne pas du tout en manger les jours qui arrivent avant la pesée, quoi.
Et c'est vrai que cette histoire de rétention d'eau, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que, bon, là, tu as toutes les astuces pour arriver à justement évacuer au maximum de l'eau, hein, on parlait du kawaii, etc. Mais l'hydratation, j'imagine, tu dois surveiller ça aussi de très, 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 très près.
Bah, l'hydratation, là, j'ai des checkers avant, pendant, après. Donc, j'ai tout ça qui fait la diff par rapport à d'autres boxeurs. J'ai la chance d'être suivi sur ce point-là au top. Je bois beaucoup d'eau, beaucoup d'eau pétillante, j'aime bien. Et ouais, je fais super gaffe à ça. Et par contre, le 2-3 jours avant le gala, avant la pesée, bah, c'est là où vraiment je bois plus grand-chose, quoi. C'est des petites gorgées d'eau pour essayer d'évacuer le plus possible d'eau du corps. Alors, je bois pas du tout. Par exemple, la pesée, c'est ce soir. Là, je sais pas quelle heure il est. Il est 13h30. Je serai là, allez, à 14h, je commencerai à m'entraîner pour perdre le poids. Courir, 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 arriver à la pesée au poids. Parce que bah, tu le perds gentiment, faut pas le perdre vite, quoi. Déjà qu'on est fatigué parce qu'on mange pas, qu'on ne boit pas bien, 3-4 jours avant, donc on perd vraiment lentement le poids pour arriver à la 18-19h à la pesée et être au poids. Mais là, je bois pas du tout. Là, il n'y a pas du tout d'hydratation. Par contre, après la pesée, là oui. Là, après la pesée, là, des sels minéraux, ceinture jus de raisin, je vous conseille, c'est très très bon.
Jus de raisin?
Jus de raisin, ouais, avec un peu de sucre, avec de la ceinture. Ceinture, c'est une eau que tout le monde connaît pratiquement. Il y a beaucoup de sels minéraux. Et c'est important parce que faut recharger en sel et voilà, quoi.
Et moi j'ai ma dernière question, mais ça c'est ma petite casquette à moi, sur le côté mental. Je sais pas si t'as des préparateurs, si t'as des gens spécifiquement sur le mental pour travailler ça, parce que c'est quand même, on parle de la dimension mentale, mais c'est un jeu d'échecs sur le combat, mais sur arriver le jour J, se préparer, d'avoir tout ça en tête, j'imagine que tu as quand même des préparations spécifiques.
J'ai été sollicité par plusieurs préparateurs mentaux, mais je trouve que je n'ai pas du tout besoin de ça. Je suis fort mentalement pour arriver à être au poids, pour arriver là où j'en suis. J'en suis pas là par hasard. J'ai bossé dur, où je me dis... C'est important, bien sûr, d'avoir un préparateur mental. Et je me dis, non, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Mais je sais que ça pourrait m'apporter du bonus en plus, c'est sûr. Mais pour l'instant, non, je n'en ai pas besoin. Mais je sais qu'il y a des boxeurs qui ont des préparateurs mentaux et ça les aide. Mais moi, pour l'instant, non, je n'en ressens pas le besoin. Mais je pense que bientôt, peut-être, pourquoi pas, essayer de bosser avec un préparateur, pourquoi pas, ouais.
Eh bien écoute, on a fait un sacré tour en tout cas de toutes les dimensions. Ouais. C'est vrai que c'est un sport qui, parce que les gens ils voient ça, l'image bourrin du mec qui tape, etc. Tout le monde doit penser que t'es un bagarreur qui va se castagner partout, alors que je pense pas du tout.
Pas du tout. Moi j'ai jamais je me suis bagarru. Enfin, je suis tellement canalisé avec la boxe. Et il y a tellement de valeur et beaucoup de respect que la boxe, certes, c'est un sport de combat, mais c'est le noble art. Et c'est vraiment un sport qui apporte plein de bonnes choses dans la vie, comme dans tout autre chose. Donc non, moi, jamais... je suis vraiment sérieux dans mon sport. Et non, quand je sors, j'ai beaucoup plus d'amis que... Bon, c'est sûr qu'il y a des personnes qui cherchent toujours. Donc c'est pour ça que j'évite aussi de sortir. Mais non, je me suis jamais bagarré en dehors et je sais ce que c'est de prendre des coups. Donc, j'aimerais pas à frapper sur un gars sans gants, parce qu'avec les gants, ça fait déjà mal. Et puis, j'ai pas le droit d'ailleurs, parce que les boxeurs professionnels sont considérés comme avec des armes blanches, par exemple. Ça, c'est des armes blanches. Ça peut être un couteau ou un poids américain. Donc,
ouais.
Donc,
ouais. Tes poings sont des armes blanches.
C'est ça.
Avec la puissance que tu développes, avec l'entraînement, c'est sûr. Et moi, j'ai aucun mal à le croire parce que j'ai un exemple dans l'histoire, dans l'actualité de ma ville où c'est arrivé. Donc, je vois à quel point, justement, ça peut faire des dégâts. Tiens, allez, quand même. Après ta victoire dans ton prochain combat, comment tu fais de ça?
Là, il y a des gars qui m'ont dit, Jordi, si, parce que j'ai beaucoup de partenaires, et Jordi, si tu gagnes, on va boire un verre à la maison. Mmh. Et ouais, pas de problème. Et après, je sais très bien que ce sera peut-être la boîte de nuit. Peut-être que j'irai en boîte fêter ça avec les amis. Mais il faut que j'aie mes deux ceintures à la taille, sinon je serai dégoûté.
Ouais, j'imagine bien. Et
Bien sûr.
tu te fais un petit plat particulier pour clôturer ces 2 mois de ou de.
Ben, en général, après un combat, je me mets une semaine où vraiment je me fais plaisir. Donc, je peux manger tout et n'importe quoi. Je m'imagine, tu sais, quand je suis en train de perdre de poids dans le lit, je m'imagine, putain, qu'est-ce que c'est bon un Big Mac, qu'est-ce que c'est bon un kebab et tout, oh là là, le petit plat de chez Adèle qui fait. Et là, je vais au restaurant et j'éclate, quoi, vraiment du cheat meal. Là, je me fais vraiment plaisir. Mais
Voilà.
après, par contre, on reprend les petites habitudes normalement.
J'imagine bien. En tout cas, écoute, Jordi, c'était super sympa de discuter avec toi, de découvrir vraiment tout ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du côté
C'est
physique,
pas très médiatisé la bourse, bien sûr.
alimentation, repas, hein, qui est vraiment un univers très. Qui demande beaucoup beaucoup de précision, hein, comme tu le disais, hein, c'est vrai que on n'a pas la vision de toutes les choses qui se mettent en place. En tout cas, moi je te souhaite une belle préparation. On dit pas merde, hein, pour le jour J, mais tu sais que voilà, hein, on sera de tout cœur avec toi.
Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis bah après la victoire, pourquoi pas essayer de refaire un petit interview comme ça pour vous parler comment ça s'est déroulé et comment ça s'est préparé ma préparation. Et puis moi, ça a été un grand plaisir, hein. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est un vrai plaisir d'avoir parlé de ça avec vous.
Eh bien écoute, merci beaucoup. Et de toute façon, je mettrai tous les liens pour te suivre parce que je te l'ai dit avant d'enregistrer, mais t'as un super chouette site, franchement, avec des belles photos et tout. Elles sont magnifiques tes photos. En plus, elles sont en noir et blanc, donc ça met en avant le corps musclé et tout, sec, hein, pour ceux qui se posent la question, parce que vraiment, on va voir que c'est pas du boxeur lourd, hein, c'est vraiment sec et vraiment musclé. Et t'as quoi, un compte Instagram, des choses comme ça?
Ouais, j'ai un compte Instagram, Facebook, ouais. Bon, bah, c'est Jordi Weiss sur Instagram. Vous pouvez me
Voilà. Et
trouver.
moi, je mettrai tous les liens. On mettra tous les liens pour te suivre, etc. En tout cas, merci beaucoup. Il y a beaucoup de photos. En plus, on voit les coulisses, etc. On voit un petit peu tout l'envers qu'il y a derrière. Et on suivra ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. En tout cas, je t'en remercie beaucoup. Et puis nous, eh ben, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre sport à découvrir, d'autres sportifs, un autre univers. Et on se rend compte, tu sais, d'un truc, c'est que plus je parle à des sportifs différents, et plus je me rends compte quand même que il y a un moment donné, la discipline, faire attention, etc. Et on revient toujours là-dessus.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui fait la différence, il n'y a pas de secret. Détail plus détail égale performance.
C'est un magnifique, magnifique mot de conclusion. Merci Jordi.
C'est ça. Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.